Mesdames et messieurs, bonjour, il est 14h07, vous êtes sur 48FM et avec moi pour présenter cette émission, je suis accompagné de Valentin Yuruk. Bonjour Valentin.
Bonjour Emilio, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième volet d'Écho Sonore, une émission où les étudiants en journalisme de l'Université de Liège sont allés sur le terrain pour traiter de sujets d'actualité. Mais avant ça, vous allez nous présenter le programme de cette émission, Emilio.
Doris Lofgen abordera dans son podcast l'évolution du métier de journaliste. Est-elle positive ou négative? Réponse dans quelques instants. Ensuite, Amélie Perts sera sur notre plateau pour nous parler de la fusion entre IPM Group et Rossel. Quelles en sont les conséquences? Par la suite, Axel Hoffeling viendra nous éclairer sur la thématique des saisies de biens d'un pays. Nous ferons ensuite le point avec Elodie Petitpas sur les normes gouvernementales concernant les malades longue durée ainsi que les personnes en burn-out. Et en fin d'émission, Régis Théodore vous présentera un podcast traitant de l'influence des réseaux sociaux sur le comportement des jeunes adolescents et adultes.
Et comme première invitée pour nous parler de l'évolution du métier de journaliste, nous recevons Doris Lofgen. Bonjour Doris.
Bonjour Valentin.
Alors, en quelques mots, pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?
J'espère devenir un jour journaliste, donc ça me paraissait pertinent d'un peu me concentrer sur le métier, voir un peu les inconvénients, les côtés positifs, donc voilà.
Et quels sont les types de personnes que vous avez mobilisées dans ce podcast ? On imagine des journalistes, mais il doit y en avoir d'autres.
Oui, pour avoir un autre point de vue, ça m'a paru intéressant de donner la parole à Ricardo Guterres, qui est le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Donc avec lui, j'ai vraiment pu aborder d'autres points que ceux que j'ai abordés avec les journalistes.
Alors, sans spoiler, en quelques mots, cette évolution, elle est plutôt négative ou positive, Doris ?
Malheureusement, plutôt négative avec tout ce qui se passe actuellement en Belgique.
Ouais, on imagine. Eh bien, c'est parti pour écouter le premier podcast de cette émission.
La ministre des Médias, Jacqueline Galland, aimerait bien passer de 12 à 8 médias de proximité.
Si on continue à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, c'est leur mort assurée.
La faute de proximité est en danger, ça pose question sur notre avenir.
Monsieur Boucher notamment s'est défendu en disant « mais on peut critiquer les médias, on a le droit de le faire bien sûr ». Mais je pense que les critiques, elles doivent être constructives. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est à un dénigrement systématique, voire à des menaces.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast intitulé « Regard porté sur l'évolution du métier de journaliste ». Vous l'avez entendu, nous allons aborder entre autres les pressions subies par les journalistes, mais aussi du risque des déserts médiatiques liés à la réforme des médias de proximité, ainsi que de l'avenir de la profession. En effet, de plus en plus de critiques s'abattent sur ce métier, alors comment les journalistes arrivent-ils à y faire face ? Pour aborder ces thématiques, je vais donner la parole à trois interlocuteurs du secteur. Éline Fauconnier, jeune journaliste travaillant pour la télévision locale liégeoise 4. Urba Hortmans, directeur général et directeur de la formation au sein de la télévision locale verviétoise Vedia. Et enfin, Ricardo Guterres, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Installez-vous confortablement, on va prendre le temps pendant 10 minutes pour essayer de le comprendre.
J'ai tout écouté, j'ai tout retenu de ce que tu m'as dit.
Comment t'as pu alors rédiger cet article-là ?
Je ne l'ai pas rédigé, je m'occupe de la radio.
Celui qui l'a rédigé, franchement, envoie-le-moi. Si vous voulez une réaction de ma part, tu m'envoies ce mec-là. Je te jure, il va être super bien reçu. Ça, je te le promets. Et lui, il risque peut-être d'avoir besoin d'une carte après. Ça, je peux te le dire.
Allez, on corrige ça, on modifie, on adapte et voilà, ok. Hein ?
Ouais, merci.
À plus.
Ce que vous venez d'entendre, c'est une conversation téléphonique entre le président du MR, Georges-Louis Boucher, et une journaliste de la RTBF. Cet appel a fuité dans la presse et a fait polémique à cause du ton et des menaces employées par M. Boucher. La raison de toute cette histoire, un article de la RTBF concernant l'utilisation d'une carte PMR avec un véhicule de service qui serait la cause des foudres du président de droite. Pour lui, ce papier serait d'ailleurs entièrement faux. Pour Ricardo Guterres, secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes, cette tendance à faire subir des pressions ou menacer les journalistes est une tendance qui se généralise au niveau international.
Je pense qu'il y a un écho en Europe au trumpisme, en fait. C'est Donald Trump aux États-Unis qui a lancé cette rhétorique des journalistes soi-disant ennemis du peuple, et donc une rhétorique très agressive contre les médias, accusés de faire des fake news, même si en réalité ils diffusent des informations tout à fait vérifiées et véridiques. Et donc on voit que ça arrive en Europe aujourd'hui. Et il y a des partis qui sont des partis illibéraux, donc qui sont contraires aux valeurs libérales de liberté, qui font la promotion de cela. Orban en Hongrie, Meloni en Italie, et effectivement le MR, à travers la figure marquante surtout du président du MR, qui est très agressif à l'égard des médias.
L'une des toutes premières études sur l'autocensure dans le journalisme en Europe a démontré que un tiers des journalistes reconnaissent s'autocensurer tellement les pressions subies deviennent pesantes. Pour Urba Hortmans, directeur général de la formation au sein de la télévision locale verviétoise Vedia, subir des pressions est devenu une norme à laquelle on ne peut échapper. Pour protéger la profession face à ce danger grandissant, il faudrait envisager des mesures juridiques supplémentaires.
D'abord, un journaliste qui dit qu'il ne subit pas de pression, c'est un menteur. Notre métier est fait de pression, comme tous les métiers d'ailleurs. Tous les métiers sont faits de pression, c'est la vie, c'est l'humanité. Notre job, c'est de résister aux pressions. La Constitution prévoit notre liberté. La Constitution, je dis toujours, elle nous donne le droit de résister. À nous à faire le job de résister. Résister aux pressions, d'où qu'elles viennent. Les pressions, les gens pensent qu'elles sont politiques. Il y a évidemment, depuis toujours, des pressions politiques, ça existe évidemment. Mais les pressions peuvent être économiques, les pressions peuvent être sociales. Les simples citoyennes et citoyens font des pressions et parfois nous menacent. Et donc, là aussi, il faut résister. Donc, à un moment donné, ça fait partie du job de résister aux pressions. Il faut être ferme, il faut avoir des règles, il faut expliquer, il faut être beaucoup, beaucoup de pédagogie. Je pense qu'il ne faut pas aller dans la confrontation. Quand quelqu'un essaye de faire une pression, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer que ce sera non, d'abord. Ce n'est pas négociable, deuxièmement. Et il faut expliquer pourquoi c'est non. Et à un moment donné, quand on passe son temps à expliquer année après année, les gens commencent à comprendre comment on fonctionne et nous respectent.
La ministre des Médias, Jacqueline Galland, en charge de ce dossier, souhaite passer de 12 à 8 médias de proximité d'ici janvier 2031 pour rationaliser les coûts. Face à ces mesures budgétaires qui sont prises, les réactions de la part des médias ne se sont pas fait attendre. Ce projet de loi soulève aussi une problématique oubliée, les déserts médiatiques.
C'est un mauvais choix. Les experts, en tout cas indépendants, ceux qui font les études sur le pluralisme des médias pour le compte de la Commission européenne, disent qu'au contraire, la Belgique aurait dû presque augmenter le nombre de médias de proximité. D'autant plus que d'autres études sur ce qu'on appelle les déserts médiatiques montrent qu'il commence à y avoir en Belgique des zones qui ne sont plus du tout couvertes par les médias locaux, puisque les grands groupes privés qui étaient présents à travers des journaux de proximité, comme les journaux du groupe Sud Info côté Rossel et L'Avenir côté IPM, sont eux-mêmes en restructuration. On parle d'une absorption d'IPM par Rossel qui va faire en sorte que peut-être le nouveau groupe Rossel, qui intégrera à la fois les journaux de Sud Info et de L'Avenir, sera tenté évidemment de faire des économies en supprimant certains titres de L'Avenir, voire même peut-être de Sud Info dans certaines villes ou communes. Et donc il y a un phénomène de désertification médiatique qui est de nouveau objectivé par des études. La communauté Wallonie-Bruxelles va réduire l'offre alors qu'elle devrait au contraire compenser la diminution de l'offre qui est prévisible dans le secteur privé par l'absorption d'IPM par Rossel. Des études européennes, par exemple, montrent que la Belgique est un des pires pays d'Europe avec la Lituanie en termes de diversité des opérateurs médiatiques privés. Et donc, plutôt que de diminuer, en fait, l'offre de télévision, de médias de proximité, les pouvoirs publics devraient les augmenter.
On espère, évidemment, qu'avec ces deux changements, on pourra apporter une ligne un peu différente qui ira de l'autre côté de l'échiquier qui est politique. L'impression quand même que la nouvelle génération, il y a quand même beaucoup de gauchos.
Le 13 janvier dernier, une conférence était organisée par le président du MR, Georges-Louis Boucher, et la ministre libérale des médias, Jacqueline Galland. Au bout d'1h30, une question est posée sur les médias de service public. Ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est la réponse formulée par Madame Galland, qui dans ses échanges a vivement critiqué la ligne éditoriale de la RTBF. Éline Fauconnier, une jeune journaliste travaillant pour la télévision liégeoise 4, réagit à ses propos, qualifiés d'insultants par plusieurs professionnels du secteur.
C'est choquant parce qu'une ministre ne peut pas dire ça, en fait, surtout une ministre des médias. Et d'où est-ce qu'elle tient cette idée-là? Si il faut juger l'information en elle-même, bah c'est par des études scientifiques. La neutralité de l'information, c'est par des études scientifiques que ça se fait. C'est pas juste en ayant lu 2-3 articles et en se disant que certains ont l'air plus d'une tendance ou d'une autre. À titre personnel, je pense que les journalistes, quand ils font leur boulot, sont neutres et c'est l'honnêteté journalistique d'avoir l'information la plus neutre possible. Pour le reste, moi je ne veux pas juger de ce que font mes confrères. Ce sont des propos qui cherchent à créer la polémique aussi et que finalement, on peut se poser la question, quelle place est-ce que nous, en tant que médias, on doit accorder à des propos qui sont dits justement pour qu'on y réagisse. Dans quelle mesure est-ce qu'il ne faut pas non pas éteindre l'incendie nous-mêmes, parce que c'est pas notre rôle, on doit relayer ce genre de propos, mais il faut qu'on apprenne aussi à s'en distancier et se rendre compte que c'est là justement pour nous faire réagir et quelque part médiatiser aussi la ministre et le MR. C'est une de leurs stratégies de communication, c'est d'être présent en permanence et de créer le débat, pour ne pas dire pour créer le conflit, de manière parfois un peu injustifiée et exagérée.
Vous l'avez entendu, les conditions économiques restent compliquées. À cela, il faut ajouter un autre paramètre à prendre en compte qui fragilise un peu plus l'avenir du métier de journaliste. C'est en effet la défiance d'une certaine partie de la population qui tend à augmenter. Les études du Reuters Institute ont démontré que près de 40% de la population en moyenne est dans une attitude d'évitement de la formation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne veulent tout simplement pas ou plus s'informer aujourd'hui après avoir été déçus des institutions médiatiques. Ils préfèrent donc se couper totalement de toute source d'information traditionnelle. En Belgique, le taux est aux alentours de 25%. Pour un pays comme le nôtre, ce chiffre reste important.
Les codes évoluent énormément et l'information n'a plus la primauté, je pense, auprès de beaucoup de publics par rapport au divertissement. Et donc l'information, quelque part, est un peu, pas condamnée, mais un peu forcée quand même à être remise en forme d'une manière différente pour essayer de convaincre. Il faut maintenant aller chercher le public. Avant, il venait, il s'installait devant la télévision, il allait acheter son journal, mais aujourd'hui, il fait d'autres choses, enfin, les publics font d'autres choses. Et donc, oui, il y a vraiment un renversement du rôle de l'information dans la société et c'est en même temps aux médias à s'adapter, mais en même temps aux gens à réaliser l'enjeu que c'est d'avoir une information qui soit juste et vérifiée et pas qui vienne des réseaux sociaux d'influenceurs dont on ne sait pas très bien nous et dont on ne sait pas finalement si on peut vraiment faire confiance.
Vous l'aurez compris, à travers ce podcast, l'information est en constante mutation. Si le métier de journaliste était autrefois admiré, les journalistes sont maintenant soumis à de plus en plus de pression et d'agressions en tout genre. Si bien que cette profession est en danger et avec elle, la démocratie. Pourtant, pour protéger la société, le quatrième pouvoir qu'est le journalisme doit être maintenu et non démantelé.
Alors Doris, on a appris beaucoup de choses dans ce podcast et on voit que la situation des journalistes empire en Belgique, qui pourtant est un pays où la liberté de la presse est un droit inébranlable.
Oui, en effet, je pense que vous l'avez compris, la liberté de la presse est surtout menacée par les pressions qui sont subies et finalement, on le voit en Belgique, qui sont de plus en plus répandues et peut-être un peu banalisées puisqu'elles sont moins mises en avant, on lutte moins contre ça.
Alors, on va se plonger aussi dans les coulisses de ce podcast. Il y a un moment qui vous a marqué dans le tournage ?
J'ai rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées. Elles sont amoureuses de leur métier, donc ça c'était plutôt positif. Mais c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'ils ont un ras-le-bol, mais ils ont un peu l'impression d'être abandonnés. Et si on ne les aide pas, si on n'aide pas le métier de journaliste, à un moment donné, je pense que ça va éclater.
Et vous avez entendu des journalistes exprimant de la frustration, parfois dans l'exercice de leur métier ?
De la frustration, non, mais peut-être un manque de compréhension de la part notamment du public qui parfois ne comprend pas trop qu'on ne peut pas faire tous les sujets ou accorder autant de temps à telle ou telle actualité.
Oui, parce que c'est pas non seulement la hiérarchie, c'est aussi le public qui met aussi beaucoup de pression aux journalistes actuels.
En effet. Tout à fait.
Merci Doris d'avoir été avec nous. Et on change de sujet, mais on reste dans la même thématique, c'est-à-dire les médias. Et pour aborder le sujet de la fusion entre les deux géants médiatiques belges, IPM et Russell, nous recevons Amélie Huppert sur notre plateau. Bonjour Amélie.
Bonjour Valentin.
Alors vous vous êtes intéressée à cette fusion. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur ce sujet ?
En fait, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est le sujet que je traite aussi dans mon mémoire. Donc vu que c'est un sujet que je commence à maîtriser, ben, je me suis dit... autant m'en resservir. Et aussi, ben, je trouve que c'est quelque chose d'hyper important. Ça risque de bouleverser un petit peu le milieu des médias. Donc, j'ai voulu me pencher dessus un peu plus précisément et voir quelles conséquences il pourrait avoir.
Alors, sans trop spoiler, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Qui vous avez rencontré dans ce podcast, pour préparer ce podcast ?
J'ai rencontré deux personnes, donc Geoffrey Guens, qui est prof à l'Université de Liège. Et j'ai aussi rencontré un journaliste, mais qui lui a préféré rester anonyme.
Et vous avez été surprise, parfois choquée par certaines informations justement qui vont être divulguées dans ce podcast ?
Pas forcément choquée, mais j'ai été assez surprise d'apprendre que par exemple, certains journalistes voient la fusion comme une bonne chose en fait. Alors que d'autres, des professeurs qui sont du coup un petit peu plus extérieurs, eux voient ça dans très mauvais œil.
Eh bien c'est parti pour l'écoute de ce deuxième podcast.
Big Bang dans le monde de la presse.
Groupe de presse Russell et IPM regroupent leurs activités.
D'où des inquiétudes sur de potentielles pertes d'emplois et aussi sur le pluralisme des médias.
Les titres vont-ils disparaître ? Des emplois vont-ils passer à la trappe ? L'autorité de la concurrence peut-elle valider cette fusion ?
Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, nous allons parler de la fusion entre les groupes de presse Russell et IPM. Cette fusion, elle a été annoncée le 23 juin 2025 et ensuite signée le 17 décembre. Au moment où nous enregistrons ce podcast, cette fusion, elle n'a pas encore été validée par l'autorité belge de la concurrence. Pourtant, de nombreuses inquiétudes se sont déjà fait entendre. Parmi elles, on peut notamment citer des craintes pour le pluralisme des médias, pour la concentration ou encore pour la perte d'emploi de certains journalistes. Nous allons donc nous poser une question. Cette fusion est-elle une bonne chose ? Et pour y répondre, nous avons interviewé deux personnes. La première, c'est Geoffrey Guens, il est professeur à l'Université de Liège. Et la seconde, c'est un journaliste qui travaille pour la rédaction de L'Avenir, mais qui a préféré conserver son anonymat. Geoffrey Guens, vous êtes avec nous pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département Médias, Culture et Communication à l'Université de Liège et vous enseignez notamment la socio-économie des médias. Donc, une première question pour vous. Est-ce que la fusion Russell-IPM, elle était inévitable ?
Non, ce n'était pas évidemment inévitable. C'est une décision économique, mais qui est aussi politique. Donc, c'est une option parmi d'autres. Ce qui est interpellant, c'est de constater ici aussi, j'ai envie de dire, l'absence de frein politique à ces mécanismes que j'observe depuis 20 ans, et en gros, ça va de mal en pis. On laisse les groupes se rapprocher, se concentrer. Il y a des fermetures d'entreprises, il y a eu aussi des licenciements, il y a des dégradations des conditions de travail des journalistes. Donc non, c'était tout sauf inévitable. Il n'y a aucune décision en matière économique qui soit inévitable. On pourrait dire le marché, mais le marché, ce n'est pas une entité divine, c'est une série de règles, de décisions. Et donc non, ce n'était pas inévitable du tout.
Cette question, nous l'avons aussi posée à une personne plus directement concernée par la fusion. Et cette personne, c'est un journaliste. Il travaille pour la rédaction de L'Avenir, sous le statut d'indépendant.
Je pense qu'en fait, cette fusion, ou plutôt ce rachat, vu la situation du secteur, vu la situation économique dans laquelle on se trouve, c'était inévitable et c'est nécessaire. Il restait 18 mois de viabilité avant le dépôt de bilan, quoi. 18 mois à partir de quand, je ne sais pas, mais de toute façon, ça reste très court, quoi. Donc, la situation est très compliquée, quoi. Enfin, je veux dire, à l'avenir, on est en train de faire des économies de bout de chandelle.
Nous l'aurons donc compris, nos deux interlocuteurs ne sont pas d'accord sur cette question. Pour le premier, la fusion était une option parmi d'autres, alors que pour le second, elle était inévitable. Mais nous n'en sommes pas restés là. En fait, nous avons interviewé Geoffrey Guens après avoir interviewé le journaliste. Nous avons donc décidé de lui faire écouter un condensé de l'interview du journaliste afin de comprendre pourquoi certaines personnes tiennent ce genre de discours. Voici la réaction de Geoffrey Guens.
Les bras m'en tombent, il y a... Alors, je peux comprendre ce discours parce qu'on l'entend. Donc moi, je ne vais pas juger les raisons sociologiquement objectives, une position qu'on peut occuper à un moment donné dans une institution ou la psyché des uns et des autres, mais ce n'est pas un discours qui est acceptable en réalité pour plusieurs raisons. D'abord, cette personne le dit elle-même, c'est inévitable, mais d'un côté, il va avoir beaucoup de pertes d'emploi, etc. Donc lui-même se rend bien compte des dégâts. À partir du moment où il y a autant de dégâts, on ne peut pas s'en réjouir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme assez souvent, on a l'impression qu'il fait de nécessité vertu. Le plus inquiétant, mais ça, c'est un effet typiquement de l'idéologie dominante, c'est-à-dire que même les dominés en viennent à intégrer ce type de discours. Hein. Ils n'ont pas su se réinventer, on n'a pas le choix, ou de la situation du marché. Je poserai, moi, deux ou trois questions à ce journaliste. La situation socio-économique des familles Rossel, Urbain et Leaudet est-elle catastrophique? Pourquoi est-ce toujours les travailleurs qui sont les variables d'ajustement? Et enfin, pourquoi faire de nécessité vertu? En réalité, il est pris dans une situation d'ambiguïté. Il se rend très bien compte que c'est une catastrophe, mais se persuade qu'il n'y avait pas de choix. C'est le principe fondamental, même lorsque c'est inconscient évidemment, de toute stratégie qui consiste en gros à baisser les bras. En réalité, rien ne s'imposait, ce n'est qu'un choix, et le choix est fait pour répondre à une situation où les intérêts de ces familles ne sont pas à toucher.
Et ce discours dominant, justement, on le retrouve aussi dans les médias, parce que même les journalistes finissent par le tenir. En fait, ils reprennent les arguments donnés par les patrons de groupes de presse, c'est-à-dire Bernard Marchand pour Rossel et François Leaudet pour IPM. Et ces arguments, généralement, il y en a trois. Le premier, c'est la concurrence avec les GAFAM qui capte une grande partie du revenu publicitaire. La seconde, c'est la fin du contrat de distribution des journaux papier par Bpost. Et la dernière, c'est la chute de leur lectorat. Nous leur avons ensuite posé une deuxième question, celle du pluralisme des médias. Parce que si Rossel absorbe IPM, cela signifie qu'à terme, les familles Urbain Marchand, c'est-à-dire les familles propriétaires du groupe Rossel, détiendront 94% de l'audience de la presse écrite francophone. Cela pose donc une question. Est-ce que nous allons retrouver un même point de vue dans tous les médias francophones ?
On a aujourd'hui affaire à des groupes qui sont relativement puissants et qui sont en mesure aussi, au moins en théorie, potentiellement, d'exercer une influence sur le débat politique, peut-être même en période électorale. Donc ce n'est pas sain de toute façon, évidemment. Et donc, en effet, ben oui, il y a toujours des nuances. Vous pouvez dire que Le Soir n'est pas exactement la Libre, que La Meuse n'est pas la Dierge. Bien sûr qu'il y a des nuances. Il y a même des différences sur certaines questions, mais sur des questions essentielles, on peut dire qu'on a un cadre, comme dit Frédéric Lourdes en France, un cadre qui est assez fixe et une série de thématiques et de valeurs entre lesquels on se positionnement légèrement plus conservateur ou plus progressiste, mais il n'y a plus, par exemple, explicitement de médias qui soient médias de gauche en Belgique francophone. Mais à l'évidence, aujourd'hui, on doit constater que le pluralisme, on continue à utiliser le mot en réalité, mais je crois qu'on se raconte déjà des blagues sur une série de questions, notamment socio-économiques et internationales. Le pluralisme, il me semble être... je ne le vois. Sur certaines questions, je ne le vois plus beaucoup. Mm-hmm. Je vois quelques nuances, mais est-ce que ça suffit à dire qu'on a un pluralisme ?
Moi aussi, j'ai des craintes par rapport au pluralisme de la presse, parce que je ne sais pas comment ça se passait, mais par exemple, moi, je ne pense pas que ça arrivera encore que, par exemple, pour prendre la zone de rédaction locale, on enverra encore deux journalistes à un conseil communal, deux journalistes à une conférence de presse, deux journalistes à un match de foot. Je pense qu'on n'enverra plus qu'un seul journaliste. Donc, on se retrouvera avec la même matière dans les deux médias. Alors maintenant, peut-être qu'on va aussi faire appel à certains outils comme l'IA pour réécrire les articles qui auront été écrits par un journaliste de l'avenir pour aller dans la Meuse ou vice-versa. Je ne sais pas, pour moi c'est une possibilité, même une possibilité assez certaine. Mais du coup, voilà, ils vont vouloir faire des économies d'échelle, ce qui est complètement logique vu le contexte économique et vu le fait que on est une entreprise privée, donc il faut être rentable. Mais donc, je pense qu'il n'y aura pas de miracle, il y aura des pertes au niveau du pluralisme.
Nous leur avons ensuite posé une dernière question, celle des pertes d'emploi. Est-ce que si Rossel et IPM fusionnent, certains journalistes risquent-ils de perdre leur travail ?
Le risque, il n'est pas non plus un risque, c'est acquis, c'est une certitude, donc il y aura des pertes d'emploi. Il faudrait vérifier, mais je pense que c'est vraiment une soixantaine de pertes d'emploi sur les deux groupes, une majorité, c'est pas une grosse majorité à l'avenir, quoi, en fait. Donc, sans compter les indépendants, parce que dans les calculs, on a toujours l'impression que les indépendants, c'est un petit peu une variable d'ajustement, comme si on a moins d'argent à la fin du mois, donc on n'achètera pas de chips, quoi. Mais ça reste, enfin, je veux dire, des indépendants, il y en a plein, et il y en a qui ont perdu du travail récemment. C'est notre moyen de subsistance, quoi. Si moi demain on me dit tu travailles plus à l'avenir, j'ai plus de rentrée financière, quoi. J'ai plus gagné ma vie. Donc oui, il y a des salariés qui perdront leur travail, il y a des indépendants qui perdront leur travail aussi. Mais ça, c'est acquis. Hein.
La presse belge a d'ailleurs connu de nombreuses pertes d'emploi ces derniers temps. 8 chez BX1, 3 chez LN24 et ensuite 5 au soir, rien que ces derniers mois. Et avec le mariage entre Rossel et IPM, cela ne risque pas d'aller en s'améliorant. L'AJP estime d'ailleurs que sur les 579 journalistes indépendants actifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, au moins 400 travaillent pour IPM ou Rossel. Mais revenons-en à notre question initiale. Cette fusion, est-elle une bonne chose? En réalité, il est assez difficile d'y apporter une réponse claire. Mais en tout cas, cette fusion, elle risque d'avoir des conséquences, notamment sur la concentration des médias, tout comme sur le pluralisme, mais aussi sur l'emploi des journalistes. La Société des journalistes de La Libre, du Soir et de l'Avenir, mais aussi l'AJP et la coopérative Notre Avenir, ont d'ailleurs réclamé des garanties claires sur l'indépendance éditoriale, la pérennité des titres et les conséquences concrètes de cette opération sur l'emploi des journalistes, tant pour les journalistes salariés que pour les indépendants. Il reste donc à voir quelle décision prendra l'autorité belge de la concurrence, qui est supposée rendre son verdict durant le premier trimestre de l'année 2026.
Alors Amélie, on vient d'écouter votre podcast. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, si vous en avez rencontrées?
Alors oui, j'en ai rencontré et je pense que la principale, c'est trouver mes intervenants. Parce qu'en fait, trouver Geoffrey Guen, ça a été assez facile puisque c'est déjà un de mes professeurs. Donc ça, ça s'est bien mis. Mais par contre, trouver des journalistes, parce qu'à la base, je voulais en avoir plusieurs pour faire une espèce de... comme une compilation en fait de leurs réponses. Sauf que je me suis vite retrouvée confrontée à une difficulté qui est que les journalistes du groupe Russell... je vais dire, parlent facilement, n'ont pas peur, alors que les journalistes chez IPM, en fait, ont peur de parler.
Et pourquoi?
Je pense que vu que c'est eux qui vont être absorbés par Russell, c'est un petit peu plus touchy de ce côté-là aussi, peut-être financièrement aussi, et au niveau de la structure, je pense que ça ne se passe pas hyper bien en interne.
Est-ce qu'il existe des journalistes, des structures, même des médias qui sont pour cette fusion?
C'est assez difficile à dire. Maintenant, dans le cadre de mon mémoire, j'ai analysé pas mal d'articles, donc aussi bien chez Russell, KIPM que Roularta ou encore d'autres groupes. Et je me suis rendu compte que les médias, surtout qui en parlaient de manière positive, c'était les médias du groupe IPM, notamment L'Avenir, en fait. Mais ça variait un peu. Certains articles, oui, d'autres n'étaient pas du tout dans le sens, donc c'est un peu spécial. Mais par contre, il y a des articles qui, eux, sont totalement contre. Je peux citer, par exemple, un article de Médor qui a été rédigé sur le sujet. Ou alors Le Vif aussi se veut un petit peu plus critique. Mais voilà, ça dépend vraiment des médias.
Donc c'est plus les médias indépendants qui se positionnent en contrepartie, justement, de cette fusion.
Oui, c'est ça.
Merci Amélie d'avoir été avec nous. Passons à une autre thématique maintenant, Axel Ofelink, qui a tenté dans son podcast d'aborder le thème des saisies de biens d'un pays. Alors ça a fait grand bruit il y a quelques mois, notamment au sujet des avoirs russes. Fallait-il les utiliser ou pas pour financer la guerre en Ukraine? Alors Axel, bonjour. Pourquoi avoir choisi cette thématique qui est quand même un sujet assez lourd à comprendre?
Bonjour Valentin. J'avais choisi ce sujet en décembre, donc à ce moment-là, la question était encore vraiment de l'actualité chaude. Et en fait, en discutant avec les gens autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup de gens s'y intéressaient pas. Pas des gens qui n'allaient pas comprendre le sujet, mais juste ils se disaient « Oh non, c'est trop technique, il n'y a pas moyen que je saisisse de quoi les articles vont parler, donc je ne vais pas m'y intéresser ». J'ai trouvé ça assez dommage parce que j'ai pris le cas des avoirs russes, mais ça peut s'appliquer à plein de situations de conflit entre pays, et je me suis dit « Pourquoi ne pas vulgariser un peu le sujet ?»
Et donc vous avez décidé d'élargir le sujet à la saisie des biens d'un pays?
Voilà, vraiment comprendre comment le mécanisme fonctionne. C'est appliqué à l'exemple précis des avoirs russes pour que les gens comprennent qui sont les différents intervenants, d'autant plus que ça touche les Belges. Mais en soi, la situation peut s'appliquer à plein de pays différents.
Ça a dû être un gros, gros travail de recherche.
Ça a été un bon travail de recherche, mais j'avais fait des études de droit, 4 ans de droit avant, et j'avais pas mal de bases, et je savais plus ou moins vers quel intervenant me tourner.
Eh bien, c'est parti pour l'écoute de votre podcast, Axel.
Mais sans vite maintenant, la question des avoirs russes hébergés en Belgique. L'Union européenne veut utiliser cet argent, 185 milliards d'euros.
Coffre-fort numérique de la banque Euroclear.
La Belgique est mise sous pression.
Si la Belgique mais bloque, elle sera pointée comme un traître.
Faute de garanties suffisantes, ce sera niet.
Fin 2025, les journaux ne cessaient de parler de ces fameux avoirs russes. On a mentionné les termes saisie, confiscation, droit étatique, beaucoup de termes juridiques ou économiques qui semblent compliqués. Mais en réalité, la situation est assez facile à comprendre. Dans ce podcast, nous allons essayer d'éclaircir le fonctionnement relativement simple de ce système. Qu'est-ce que ça veut dire une saisie au niveau international? Pourquoi l'Union européenne a-t-elle pensé pouvoir confisquer l'argent russe? Pourquoi la Belgique aurait pu devoir rembourser cet argent? Pour comprendre cette affaire, il faut en revenir à sa base, le gel des avoirs russes. J'ai interrogé Bernard Kepen, chef économiste de CBC, pour qu'il nous explique quand les actifs d'un État peuvent être gelés.
On peut geler des actifs s'il y a une décision au niveau, par exemple, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou bien dans le cadre de sanctions qui sont appliquées, si on prend le cas, évidemment, du dossier actuel qui nous occupe beaucoup, qui est la guerre en Ukraine.
Geler des actifs, c'est donc saisir, immobiliser les biens d'une personne, de façon à ce qu'elle ne puisse plus y accéder. Il existe deux types de saisie.
Je crois qu'il faut bien distinguer. Je peux confisquer des biens si j'ai par exemple une décision de justice qui touche une affaire de drogue. Donc là, j'ai une décision de justice qui condamne un réseau et qui va confisquer ses biens. Donc ça c'est une première, ça c'est vraiment saisir des biens. À côté de ça, on a des mesures qui sont prises par des États dans le cadre de conflits, c'est encore le plus simple. Et là, on va avoir des sanctions internationales qui vont entraîner un gel des actifs de l'État concerné. Et là, il n'est pas question de confiscation. Ce sont des mesures de sanctions. Et donc, si à un moment donné, je lève ces sanctions, ben, je libère tout ce qui a été gelé pendant la période. Et donc, je ne peux pas m'approprier ce bien à ce moment-là. Tout le débat qu'on a eu en Europe avec les avoirs qui sont gelés au niveau de Euroclear aujourd'hui, c'est tout ce débat-là. Si demain la guerre s'arrête, la Russie a droit à récupérer ses avoirs, puisque les sanctions sont levées.
La question trouve ses bases tant dans l'économie que dans le droit. Nous avons donc interviewé Patrick Wotley, professeur de relations internationales privées à l'ULIEJE. Lui aussi souligne cette différence importante dans le type de saisie.
Le processus normal entre débiteur et créancier, c'est vous êtes créancier, votre débiteur vous doit de l'argent et vous essayez de vous faire payer en saisissant des biens, donc en les gelant et puis en les confisquant. Ça passe devant les tribunaux. Ici, avec le processus relatif à Euroclear, personne n'est passé devant les tribunaux au départ. Ce n'est pas un juge qui a ordonné le gel, c'est la loi, pour d'autres raisons qui n'étaient pas liées au fait que la Russie devait de l'argent à n'importe qui. Au fait, on ne sait pas encore si la Russie doit de l'argent à l'Ukraine. Ça, on le saura à la fin de la guerre, quand on parlera des réparations. Et à ce moment-là, on verra combien la Russie doit à l'Ukraine en termes de réparations pour tout ce qu'elle a détruit en Ukraine.
La saisie des avoirs russes est donc une sanction légale. La propriété des avoirs n'est pas remise en question. Cet argent est et reste russe. Leur gel est une conséquence d'avoir entamé la guerre, ça n'a rien à voir avec une question de dette. Je le répète, car ce concept est important pour approcher la question suivante. Si l'argent appartient à la Russie, pourquoi la Commission européenne parle-t-elle de le confisquer ?
Alors ça a été envisagé un petit peu en anticipant. On s'est dit, tiens, il y a tout cet argent russe qui est en Belgique. Un jour, la guerre va se terminer et on se disait, il est certain que la Russie devra payer des réparations. Énorme, parce que les dommages et dégâts en Ukraine, c'est des villes entières qui ont été anéanties. Il faut réparer ça. C'est la Russie qui est coupable. En droit international, il n'y a aucun doute, sauf dans l'esprit de M. Poutine, c'est lui l'agresseur, c'est lui qui a commencé la guerre, donc c'est lui qui est coupable. Donc il devra payer des réparations. Et l'Union européenne s'est dit, tiens, est-ce qu'on n'anticiperait pas ? De toute façon, la Russie devra payer des réparations. Est-ce qu'on ne prendrait pas déjà une partie de cet argent pour le donner maintenant à l'Ukraine ? Parce que l'Ukraine, elle a besoin maintenant d'argent. Et pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'argent maintenant ? Ben parce qu'elle est en guerre, donc ça coûte très cher, évidemment. Et qu'en plus, comme elle est en guerre, ben, l'économie fonctionne beaucoup moins bien en Ukraine. Il y a beaucoup moins d'impôts qui rentrent, évidemment, parce que les gens, ils ont fui l'Ukraine. Donc l'activité normale, elle est pas du tout normale. Au contraire, elle ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'était de prendre une partie importante de ces 180 milliards et de les donner déjà, ou de les prêter, si vous voulez, à l'Ukraine, en se disant, de toute façon, la Russie ne pourra pas, à la fin de la guerre, demander cet argent, puisqu'elle devra payer des réparations. C'est un jeu un peu compliqué. C'est très risqué comme opération. C'est très risqué comme opération parce qu'on anticipe, on se dit, au moment où la guerre se termine, la Russie devra payer des réparations, et ces réparations, ça sera énormément d'argent, et on les prendra... l'argent qui est bloqué aujourd'hui en Belgique servira à payer ses réparations, donc autant le prendre déjà maintenant. Mais c'est faire des hypothèses, évidemment. C'est faire des hypothèses, et l'hypothèse principale, c'est que la Russie, d'abord, c'est que la guerre finira, ça on espère quand même un jour, et puis que lorsque des négociations auront lieu pour la fin de la guerre, on fait l'hypothèse que la Russie acceptera de payer des réparations. Et ça, il n'y a rien qui le garantit. Et surtout, il n'y a rien qui garantit que la Russie acceptera de payer autant de réparations. Alors, si à un moment donné, la Russie a encore plus de poids en Ukraine et que la guerre se termine par un cessez-le-feu et que l'Ukraine abandonne une partie de son territoire et qu'en plus l'Ukraine dit « je suis forcé, contraint, je ne demande pas de réparations », à ce moment-là, on aura pris de l'argent à la Russie en se disant, de toute façon, c'est l'argent que la Russie devra payer à l'Ukraine, mais l'Ukraine dans cette hypothèse-là, l'Ukraine n'a pas droit à l'argent, donc on va le rembourser. Et qui va le rembourser? Car Euroclear n'a pas l'argent. Euroclear, ce n'est pas une entreprise riche, c'est une entreprise qui gère l'argent des autres. Donc ce n'est pas Euroclear qui va repayer 180 milliards. En fait, qui va le repayer, c'est la Belgique. Et ça, inutile de vous dire que devoir, même si le risque est faible, devoir construire un mécanisme où la Belgique accepte le risque de devoir repayer 180 milliards d'euros à la Russie, c'est totalement inacceptable. C'est la moitié du produit national brut belge par année. Donc c'est vraiment c'est la faillite de la Belgique à ce moment-là.
Fin février 2025, l'Agence fédérale de la dette estimait que la dette fédérale belge s'élevait à 528,308 milliards d'euros. Devoir rembourser la Russie augmenterait notre dette actuelle de plus ou moins 33%, un risque impensable, surtout s'il n'est pas partagé. Bernard Kepen confirme le manque de soutien apporté par la communauté européenne, qui aurait pu mitiger ce risque.
Euroclear est implanté, c'était belge, est implanté en Belgique. Et donc, effectivement, dans tout le débat qui a eu lieu par rapport à cette réflexion au niveau de l'Europe, la Belgique a dit « Oui, mais attendez, vous nous dites que vous allez, vous, les autres pays européens, nous donner des garanties que si jamais on est dans la situation où, parce qu'il y a plusieurs conditions, fin de la guerre et la Russie s'engage ou paye les dommages de guerre, puisqu'il y a ça aussi qui est derrière, si elle s'engage à payer les dommages de guerre et qu'elle paye les dommages de guerre, nous devons restituer les avoirs de la Russie qui sont dans les comptes d'Euroclear. Vous prenez, vous, les autres pays européens, un engagement, et cet engagement, il n'était pas clair, il n'était pas concret, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un véritable engagement des autres États européens. Et c'est pour ça que la Belgique a bloqué là-dessus.
La Belgique aurait donc été seule à devoir assumer financièrement le risque pris par la Commission européenne. Un risque réel, car Euroclear est déjà attaqué en justice par le gouvernement russe pour la simple décision de saisir ses avoirs. Fin décembre 2025, le projet de confiscation des avoirs russes est abandonné par la Commission européenne. Un prêt de 90 milliards d'euros est quand même fait à l'Ukraine par l'Union européenne, mais les sources de ce prêt n'ont pas de lien avec les avoirs russes situés chez Euroclear. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous. J'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair et que si, en cas d'un futur conflit entre États, on parlait à nouveau d'une saisie légale, vous en comprendriez le fonctionnement. À très bientôt pour une prochaine émission.
Axel, nous venons d'écouter votre podcast. Avez-vous rencontré des difficultés dans la préparation de celui-ci? On imagine que vulgariser un thème aussi compliqué a pu être pas facile.
Il a fallu que je parle à des personnes qui s'y connaissaient vraiment, avec des termes assez simples. Donc oui, ça a été compliqué de trouver les bons mots à utiliser et puis être pas trop ennuyant pendant le podcast. C'est aussi un peu complexe à ce niveau-là.
Ça représente combien de temps de travail de préparer un podcast sur un tel sujet?
Ça a été beaucoup de recherches en fait, vraiment être sûr de savoir de quoi je parlais, regarder des définitions, analyser de l'ego, mais ça je vous passe le côté un peu casse-pied du truc. Je dirais que ça m'a pris plusieurs jours pour vraiment apprécier le sujet.
Et on imagine que ça a été beaucoup de documents à analyser. Comment est-ce que vous avez pu vérifier vos sources, on imagine près de vos intervenants?
C'était pas tellement des sources, beaucoup de documents. J'ai cherché un peu les textes légaux, mais une fois qu'on les a trouvés, c'était assez facile. Et puis, une fois que je connaissais le sujet, j'ai pu poser des questions précises à la fois à Bernard Kepen et à M. Wotley, qui ont été tout à fait agréables et assez pédagogues.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient potentiellement se retrouver dans la situation de la Russie il y a quelques mois?
C'est difficile à dire parce que on a un système où l'Union européenne et les États-Unis ont besoin de se mettre d'accord pour imposer ces sanctions. Il n'y a plus beaucoup de pays actuellement qui pourraient risquer cette double sanction, mais par exemple, on a le cas du conflit d'Israël et Palestine. L'ONU a récemment rendu un arrêté reconnaissant qu'Israël devrait peut-être, avait commis un génocide au niveau des Palestiniens, et il y aura donc la question de remboursement qu'Israël devrait faire à la Palestine. Et là, on pourrait se demander si on ne pourrait pas saisir certains biens d'Israël à l'étranger pour rembourser les Palestiniens.
Ouais, sujet à suivre donc.
Voilà.
Merci Axel de nous avoir éclairé sur ce sujet. Nouvelle mesure gouvernementale, burn-out. Et pour présenter notre quatrième podcast, nous recevons Élodie Petitpas qui va nous parler de tous ces sujets. Bonjour Élodie.
Bonjour Valentin.
Alors, on l'a dit précédemment, de quoi va parler ce podcast plus précisément?
Donc ce podcast, il va aborder les nouvelles mesures gouvernementales qui ont été prises ici dernièrement et qui concernent les malades de longue durée. Et j'ai décidé d'axer ça aussi sur l'impact que ces mesures vont avoir, notamment sur les personnes qui ont un burn-out.
Alors, quels sont les types de personnes que vous allez faire intervenir dans votre podcast? On imagine des malades de longue durée, mais aussi des professionnels.
Oui, c'est ça. J'ai décidé de prendre une psychologue clinicienne du travail qui puisse apporter un avis expert sur l'impact que ces mesures pourraient avoir sur une personne qui a un burn-out. Et j'ai réussi à trouver une personne qui a eu un burn-out, et qui a accepté de témoigner, du coup. Et donc, j'ai fait parfois réagir la psychologue au témoignage de cette personne pour voir si son avis pouvait être généralisé.
Alors, question qui peut paraître bête, mais pourquoi ce sujet vous intéressait autant ?
Je trouve que le burn-out, on en voit de plus en plus, on en parle de plus en plus, et personnellement, dans mon entourage, j'ai des personnes qui en ont souffert, et donc c'est quelque chose qui me touche un peu et auquel je m'intéresse.
Alors, on se donne rendez-vous dans quelques instants après l'écoute de votre podcast.
Virage majeur pour les malades de longue durée. Dès le 1er janvier, les règles changent. Le gouvernement veut accélérer le retour au travail.
On doit responsabiliser les entreprises, on doit responsabiliser les médecins. L'objectif ici, c'est de permettre à 100 000 personnes de pouvoir se réinvestir parce que c'est nécessaire pour nos finances.
C'est en entendant ce débat dans l'espace médiatique en novembre dernier que l'idée de ce podcast a commencé. J'ai entendu que le gouvernement prévoyait de remettre 100 000 malades de longue durée au travail, et en entendant ça, je me suis directement demandé comment ils comptaient y arriver. Et puis j'ai aussi directement pensé aux personnes qui ont un burn-out, et je me suis demandé comment cette décision et les mesures qui seraient prises allaient les impacter. Parce que selon les chiffres de l'INAMI, les personnes qui ont un burn-out, elles représentent un tiers des malades de longue durée. Donc dans ce podcast, je vais revenir sur chacune des mesures qui y est prise par le gouvernement pour parvenir à son objectif, et on va aussi voir comment ces mesures, elles pourraient impacter les personnes qui sont en situation de burn-out. Et pour m'aider à y voir un peu plus clair et répondre à ces questions, j'ai pu rencontrer une personne qui a eu un burn-out et aussi une psychologue clinicienne du travail. Premièrement, depuis le 1er janvier, les médecins traitants, ils ne peuvent plus octroyer de certificat de maladie qui dépasse une durée de 3 mois. Cette mesure, elle vise une dynamique d'accompagnement et un suivi régulier des patients. Et pour comprendre l'impact que cette mesure pourrait avoir, j'ai pu recueillir le témoignage d'Aurélie, 27 ans, qui a souffert d'un burn-out.
Par rapport au contrôle chez le médecin, moi, j'étais déjà dans ce cas-là d'aller tous les 3 mois et de refaire un peu un check-up, on va dire, de la situation, voir comment ça évoluait, voilà. C'est le médecin traitant, alors oui, c'est pas agréable d'aller chez le médecin, enfin voilà, mais c'est plus rassurant déjà quand tu vas chez ton médecin traitant. Et ça permet aussi, elle refait un peu le point avec toi, de savoir comment tu te sens, comment ça va, et voir si tu te sens prête, peut-être à rechercher du travail, de refaire le poids et de te donner des conseils. Enfin, je pense que c'est pas une mauvaise idée.
Un ressenti renforcé par l'analyse de Jessica Ouraga, psychologue clinicienne du travail.
Ici, on voit donc le rôle particulier du médecin traitant et l'importance aussi de la relation que le patient peut avoir avec son médecin. Dans la plupart des situations, le patient l'a choisi, il a établi une relation avec lui, il le voit plus ou moins régulièrement. Donc le médecin est vraiment perçu comme un soutien qui est en mesure de sécuriser la personne. Et donc là, il y a vraiment un accompagnement très constructif qui peut se mettre en place. Donc au niveau d'un regard régulier du médecin traitant, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant.
Ensuite, dans le courant de la législature, il sera établi que le tout premier certificat médical ne pourra plus dépasser une durée de 3 semaines maximum. Une décision que Jessica Ouraga juge problématique.
Le fait de limiter le premier certificat à 3 semaines, là, ça me pose un peu plus question quand je repense à ma formation et qu'on nous a encouragé dans la collaboration avec les médecins traitants d'encourager dans un premier temps les 2 mois. Parce que la personne, quand elle est en arrêt maladie, déjà, il y a le temps où elle doit réaliser toutes les démarches pour prévenir de son absence. Et elle a à peine le temps de se poser qu'elle est déjà dans l'angoisse de son potentiel retour pour la fin du mois, si elle a un certificat dans le mois. Donc 3 semaines, ça va être encore plus réduit. Et donc il y a cette crainte que pour certaines personnes, ça favorise une insécurité et qu'elles n'aient pas le temps de se poser et de réfléchir à ce qui peut être mis en place pour elles.
Et puis depuis le 1er janvier 2026, les médecins traitants doivent également transmettre le certificat médical de plus de 14 jours à la mutualité de leurs patients. Cela se fait via une plateforme électronique appelée Multimédiate. Avant, c'était le rôle de l'employeur de le faire après un mois d'absence. Une nouvelle mesure prévoit aussi que les salariés peuvent maintenant être sanctionnés lorsqu'ils manquent de façon répétée des entretiens avec le coordinateur de travail, le conseiller pour l'emploi, le médecin conseil ou le médecin du travail. Avec ces mesures, le gouvernement vise une plus grande responsabilisation des médecins qui prescrivent l'incapacité de travail et des personnes en incapacité de travail. Mais ce ne sont pas les seuls acteurs pris en compte. Pour contenir la hausse des malades de longue durée en Belgique et les maintenir sur la barre des 600 000 d'ici 2030, le gouvernement veut également responsabiliser les mutualités. Et pour cela, leur financement dépendra davantage de leur capacité à réintégrer les malades de longue durée sur le marché du travail. Elles devront donc réexaminer plus de 200 000 dossiers d'ici 2029. Cela passera par l'examen d'un médecin conseil, chargé d'évaluer que l'incapacité de travail de la personne est bien réelle, pour pouvoir autoriser le remboursement de la mutuelle, mais aussi accompagner la personne dans sa réinsertion professionnelle. Et comme l'explique Aurélie, il s'agit d'un examen qui est redouté lorsqu'on a un burn-out.
Je comprends qu'il faut des contrôles médicaux pour pas abuser non plus, voilà. Mais c'est toujours remettre en question ton état de santé. Donc ça te rajoute toujours un stress qui fait que ça ne t'aide pas, quoi. Il y a le stress de te dire, bah oui, t'es en burn-out, c'est psychologique. Toi, tu le ressens à l'intérieur de toi. Mais ce que tu ressens et ce que tu laisses paraître, voilà, parfois t'as un masque pour faire genre... tout va bien, voilà. Alors qu'au final, à l'intérieur, non. Et donc de se dire, est-ce qu'ils vont être là pour t'aider ou est-ce qu'ils vont être là pour t'enfoncer, entre guillemets, et te dire, non, vous n'avez rien, vous pouvez retourner au travail, alors qu'au final, toi, personnellement, à l'intérieur de toi, tu sais que t'en es incapable, quoi. Donc oui, c'est un peu une source de stress qu'on te rajoute, je vais dire.
Et ce ressenti vis-à-vis des médecins conseils est largement généralisé, selon Jessica Ouraga.
Le médecin, au niveau des mutuelles, qui, là aussi, peut amener de nombreuses craintes lorsque les personnes doivent se rendre dans leur mutuelle pour rencontrer ce médecin-là. Parce qu'il y a le risque, est-ce qu'on va continuer à me sécuriser avec les indemnités ou pas. Et donc là, au niveau de l'expérience rapportée par mes patients, la plupart sont rassurés en sortant de ce rendez-vous parce que il y a une compréhension de la part du médecin et parfois ils sont très mal reçus et ça vient vraiment à casser l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes qui est en train de se reconstruire parce qu'ils sont perçus comme des profiteurs. Voilà, mais ce sont des situations qui sont quand même assez rares, mais le regard du médecin reste pour la plupart quelque chose d'angoissant.
Finalement, les employeurs ne sont pas en reste avec ces réformes. En effet, les employeurs de plus de 50 salariés doivent maintenant contribuer à 30% de l'indemnité à charge de l'INAMI au cours du deuxième et du troisième mois d'incapacité de travail. Et cela pourrait s'étendre jusqu'au quatrième et cinquième mois. Lors du premier mois, le salarié bénéficie du salaire garanti par l'employeur. Et puis, les employeurs doivent aussi lancer un parcours de réintégration dans les 6 mois pour toute personne qui en fait la demande et qui a un potentiel de travail. En plus de cela, les employeurs peuvent bénéficier d'une prime lorsqu'ils offrent une chance de retour au travail à une personne en incapacité de travail. Cela doit se faire à travers une reprise partielle du travail d'une durée de 3 mois minimum. Et cette prime pourrait se voir augmentée. À travers ces mesures, on peut voir une manière de responsabiliser également les employeurs. Et d'après Jessica Ouraga, il est important de ne pas oublier le rôle qu'ils peuvent jouer pour accélérer une remise au travail.
Ça nécessite de comprendre ce qui s'est joué dans le travail parce que c'est l'environnement qui a amené cette situation d'épuisement professionnel. Et se pose la question... Ok, la personne a été en arrêt maladie, elle a peut-être fait une démarche vers un psychologue ou un autre spécialiste et elle est prête à recommencer ou en tout cas elle envisage de recommencer. Et qu'en est-il de son travail? Est-ce que là, on s'est penché sur ce qui a alimenté le dysfonctionnement? Est-ce qu'elle va simplement retourner au travail, rien n'a changé et est-ce qu'elle ne risque pas d'être dans une rechute? Et donc ça dépendra aussi de la manière dont le lieu de travail est dans la possibilité de se remettre en question, d'investiguer sur ce qui a pu poser problème, parce que ça peut justement favoriser un retour plus rapide. Tout n'est pas uniquement au niveau de l'individu, de la personne qui est en arrêt maladie.
Et si toutes ces nouvelles mesures ont été prises, c'est en espérant que remettre 100 000 malades de longue durée au travail permettrait de réaliser une économie de près de 2 milliards d'euros. L'objectif est donc principalement d'alléger les dépenses de sécurité sociale en favorisant un retour au travail le plus rapidement possible, ce qui n'est pas toujours réalisable lorsqu'on souffre d'un burn-out, comme l'indique Jessica Ouraga.
Dans les nouvelles décisions, on peut, par exemple, mettre fin au contrat d'une personne pour cas de force majeure dès que les 6 mois arrivent, alors que précédemment c'était les 9 mois, alors que la personne a à peine le temps de se rétablir. Donc, ce qui est difficile au niveau des réformes actuelles, c'est que le temps pour que la personne puisse se rétablir est fortement diminué, alors que si on est dans une situation réelle de burn-out, on peut être rapidement au-delà de 6 mois.
Enfin, il faut aussi noter que la prévention du burn-out fait également partie des éléments que le gouvernement souhaite renforcer. Dans cette optique, un investissement supplémentaire de 4,7 millions d'euros a été alloué pour les soins de santé de première ligne. Le gouvernement espère ainsi réduire l'absentéisme et éviter les arrêts maladie en intervenant plus rapidement auprès des travailleurs. En plus de cela, il est prévu que le crédit familial soit introduit en tant que droit de l'enfant. Cela permettrait d'éviter des épuisements liés à la difficulté de concilier vie de famille et vie professionnelle. Une des premières mesures pourrait être d'introduire une semaine supplémentaire de congé de naissance à prendre par l'un des deux partenaires. Il ne reste désormais plus qu'à voir si toutes ces mesures permettront effectivement de remettre 100 000 malades de longue durée au travail d'ici 2029.
Alors Élodie, on vient d'écouter votre podcast. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour le préparer ?
Ce qui a été le plus dur, ça a été surtout de trouver une personne qui avait eu un burn-out, parce que je ne savais pas trop comment faire. Et donc j'ai pensé à demander à une psychologue au début, mais le problème du secret professionnel s'est posé, et donc ce n'était pas une solution. Et finalement, j'ai réussi à trouver quelqu'un via une connaissance d'une connaissance.
Ok, et donc la personne que vous avez rencontrée, avait-elle du mal à se confier a priori ?
Étonnamment non, elle s'est livrée assez facilement et j'ai senti que même si elle n'était plus en situation de burn-out, elle était toujours très touchée par ce qu'elle avait vécu et ça lui tenait encore beaucoup, beaucoup à cœur, quoi.
Alors, on l'a entendu, il y a beaucoup de normes qui sont rentrées en vigueur depuis 2024 et l'installation de notre nouveau gouvernement. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui sont inquiètes dues à ces nouvelles normes ?
La psychologue, comme vous l'avez entendu dans le podcast, elle remettait surtout en cause une des normes qui l'inquiétait, le fait que le premier certificat soit réduit à 3 semaines seulement de maladie. Et donc, voilà, c'était surtout une des mesures qui inquiétait. Mais maintenant, il y a des mesures qui pourraient être bénéfiques, mais ça se verra avec le temps, je pense.
Merci Élodie d'avoir été avec nous. Et avant de clôturer cette émission, nous nous retrouvons avec Régis Théodore pour nous parler des effets qu'ont les réseaux sociaux sur le comportement des adolescents. Bonjour Régis.
Bonjour Valentin.
Alors avant d'écouter votre podcast, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix de sujet ?
En fait, pour faire simple, j'étais au marché de Noël avec un ami et je lui expliquais ce projet, donc faire un podcast. Et je n'avais pas d'idée de sujet. Donc au fil des discussions, on s'est mis à parler de TikTok et on se disait que c'était vraiment une application dangereuse. Mais on n'est pas des experts. Et de là, je me suis dit, je fais un podcast sur l'impact des réseaux sociaux, sur les ados et les jeunes adultes. Et à partir de là, je me suis dit, je vais contacter un neuropsychologue de Malmedy qui s'appelle Aubry Robert et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi.
Eh bien, écoutons ce podcast alors.
Ce son, c'est moi qui scrolle sur Instagram, alors que ce soit TikTok, YouTube, Facebook ou Instagram, une fois que j'ai lancé une vidéo, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Dans ce podcast, on va vous parler d'addiction aux réseaux sociaux, de problèmes d'attention liés à ces réseaux, de la différence avec le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aussi on va vous proposer des solutions à tous ces problèmes. Et pour répondre à ces questions et nous proposer des solutions, j'ai rencontré un neuropsychologue clinicien formé à l'ULIège, Aubry Robert. Pour notre expert, ces applications peuvent nous rendre addicts.
Oui, tout à fait. Car ils peuvent tout à fait dérégler justement ce qu'on appelle le système de récompense neurologique, en fait, et donc totalement perturber la sécrétion de dopamine. Ce sont des stimulations avec une forte récompense, un peu comme un verre d'alcool procurerait du plaisir, entre gros guillemets, et de la stimulation sans faire d'effort, ou du moins un effort très simple, car il suffit de boire le verre. Les réseaux sociaux ou les vidéos courtes, justement, nécessitent que de scroller, de rester déconcentré devant une vidéo, en fait, et juste d'être passif devant une vidéo.
Notre système de récompense est alors affecté. C'est en quelque sorte la base d'une dépendance. Pour d'autres formes d'addiction, c'est un peu différent.
Dans les substances comme l'alcool, cocaïne ou autre, il y a encore d'autres procédés chimiques qui ont lieu justement et qui créent une dépendance physique donc aux substances. Dans le cas des réseaux sociaux ou applications à vidéo courte. C'est vraiment l'aspect cognitif donc qui prime, et donc un système de récompense dopaminergique.
Pour les réseaux sociaux et les formats courts, il n'y a pas de substance en jeu. Les vidéos suffisent, mais pourquoi suffisent-elles ?
Le problème avec les vidéos courtes, c'est que ça stimule de la mauvaise façon, via les lumières bleues, des montages un peu épileptiques et des montages audio également un peu épileptiques, dans le sens où ça crie un peu de partout. Et là, le cerveau adore ça, en fait. Et bien, tout simplement, ben, on est face à un surplus, j'ai envie de dire, de dopamine, à un point où la dopamine n'a plus aucun effet sur le cerveau, sur le corps, en fait. Donc, le cerveau a tellement un besoin, au final, d'être stimulé, de stimulation de dopamine pour rester actif, ben, qu'il reste totalement happé par les vidéos.
Le système de récompense et la dopamine sont au cœur du problème. La dopamine a pourtant un rôle central.
C'est une hormone qui est liée justement à la satisfaction, au bonheur, et qui est surtout sécrétée pour nous renforcer positivement à faire des choses pour notre survie. Par exemple, on fait du sport, le cerveau libère la dopamine pour justement nous inciter à recommencer à faire du sport. On mange quelque chose de sain, le cerveau nous récompense à nouveau avec la dopamine.
Vous l'avez compris, la dopamine est au cœur du problème. Et notre expert n'est pas le seul à établir un lien entre les réseaux sociaux et l'addiction. Fin mars 2026, un jury californien a jugé Meta et Google coupables dans un procès. Ils étaient accusés d'avoir fabriqué l'addiction dans le cerveau d'enfants devenus dépendants de leur plateforme. Dans ce cas, l'attention se concentre sur le cerveau des enfants. Mais pourquoi se concentrer sur ceci ?
Le cerveau n'est pas encore fini son développement, en fait, à l'âge des enfants et des adolescents. Généralement, on parle de 25 ans à peu près pour l'âge à laquelle le cerveau termine de se développer. Et généralement, la dernière zone du cerveau qui se développe, c'est le lobe frontal, donc vraiment l'avant du cerveau, qui est justement responsable des fonctions exécutives, de la régulation, de l'inhibition, donc vraiment la zone liée à... aux addictions, en fait.
Avant même de parler d'addiction aux réseaux sociaux, on peut ressentir des difficultés à se concentrer sur des tâches basiques.
À force de rester devant des vidéos courtes, justement, le cerveau se conditionne à être surstimulé sans devoir faire aucun effort pour avoir sa dopamine, en fait. Donc au final, s'il y a un choix à faire entre étudier, travailler, se concentrer, et donc faire un effort, ou une activité, comment, scroller, qui demande aucun effort, mais forcément le cerveau va choisir l'activité qui demande le moins d'efforts, en fait. Et donc, ça peut provoquer des distractions, de la procrastination, donc des symptômes donc, typiques du trouble de l'attention.
Et ce ne sont pas les seuls symptômes. D'autres comportements typiques sont présents.
Choisir les activités qui demandent le moins d'efforts. Donc, travailler, ça demande un effort. Faire du sport, ça demande un effort. Alors que scroller n'en demande aucun. Donc, à force de rester dans une optique et une mentalité et dans une activité, plutôt dans une inactivité en scrollant, le cerveau ne veut juste plus faire d'effort.
Comme notre expert nous l'a déjà dit, ces symptômes nous font penser à un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Il nous explique les différences.
Le TDA, c'est un trouble neurodéveloppemental de l'attention qui peut être accompagné ou non d'hyperactivité. Et donc, quand on dit neurodéveloppemental, donc c'est un trouble qui est présent dû à justement un développement non efficace des capacités attentionnelles ou des fonctions exécutives.
Mais beaucoup de personnes se voient eux-mêmes ou leurs enfants TDA. Et c'est assez logique quand on connaît les symptômes.
Les signes les plus fréquents sont surtout des distractions marquées, une difficulté à rester concentré très longtemps. Chez l'enfant, c'est pas seulement des difficultés scolaires, des tendances à être distrait, à ne pas écouter totalement les cours, ou à passer des exercices, oublier des consignes, par exemple. Chez l'adulte, ça peut surtout se montrer par des oublis au quotidien, des oublis de faire certaines choses, une tendance à procrastiner.
Alors comment peut-on différencier une difficulté à se concentrer due à une utilisation excessive des réseaux sociaux à un trouble de l'attention?
On peut évaluer les capacités d'attention cliniquement et psychométriquement avec des tests. Maintenant, il faut aussi donc évaluer les facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à ces difficultés-là et essayer donc de réduire ou diminuer leur impact et de réévaluer après un certain temps donc les difficultés. Ces difficultés sont présentes durant un certain temps et ne s'améliore pas malgré la prise en charge et malgré la diminution des facteurs externes pouvant contribuer aux difficultés attentionnelles, là on est certainement dans un trouble. Si par contre les difficultés s'estompent en traitant les facteurs externes, là on est plutôt dans des difficultés passagères dues à l'environnement. C'est très difficile de diagnostiquer à 100% le TDA, dans le sens où il peut y avoir énormément de facteurs externes qui peuvent venir provoquer des difficultés, les amplifier ou les majorer. Notamment le sommeil, par exemple, l'hygiène de vie sont des facteurs qui peuvent énormément contribuer aux difficultés attentionnelles et qui sont pourtant présentes chez beaucoup de personnes, en fait. Donc, ça peut causer beaucoup de difficultés. Et la difficulté vient aussi du contexte d'évaluation, parce qu'on évalue les capacités avec des tests psychométriques, mais qui ne sont pas toujours forcément en lien avec le vécu réel des patients, que ce soit à l'école ou au travail.
On comprend alors les difficultés à diagnostiquer un TDAH. L'environnement numérique, l'hygiène de vie, le manque de sommeil et juste le vécu des patients ont un impact sur les capacités d'attention. Mais si le trouble de l'attention est réellement diagnostiqué, qu'est-ce qui peut être mis en place pour aider ces personnes?
Chez l'enfant, on peut mettre beaucoup de choses en place à l'école, que ce soit directement avec les instituteurs, institutrices ou professeurs, ou via des pôles d'intégration scolaire, mais surtout des stratégies et des accompagnements ou des aménagements raisonnables, qu'on appelle ça donc des outils mis en place directement dans la classe. C'est par exemple avoir accès à un casque anti-bruit qui permet de pouvoir faire des contrôles ou examens tout en se protégeant en fait de l'environnement sonore. En fait. Et pour les adultes, généralement, on met en place beaucoup de stratégies de compensation des difficultés où on aménage justement l'environnement pour qu'il y ait moins de potentiels distracteurs.
Pour les enfants, les parents font partie du processus.
Les parents peuvent surtout essayer de comprendre leurs enfants, car une difficulté dans la prise en charge, c'est que beaucoup de parents, mais à juste titre, peuvent parfois perdre patience ou être exaspérés de certains comportements, mais les enfants n'y peuvent rien en fait. Donc là, c'est important de prendre du recul pour eux et de se dire que ce que font parfois leurs enfants n'est pas volontaire. Et que généralement, les parents ont un rôle très important à jouer dans la régulation de l'attention de leurs enfants, dans le sens où leur réponse va permettre vraiment de diriger vers leurs enfants vers un comportement peut-être plus adapté.
Il y a une porte de sortie pour les enfants qui ont un problème d'attention, voire une addiction aux écrans. Mais ça demande du travail de la part des parents.
Donc là, l'idéal, c'est de pouvoir diminuer progressivement donc, les stimulations plutôt addictives et ou les remplacer justement par des activités plus stimulantes, de manière saine, et qui soient plus demandeuses en effort. Car s'il y a vraiment une addiction qui est très présente chez l'enfant, retirer la source de stimulation, la source de l'addiction, c'est comme retirer l'alcool chez un alcoolique, c'est comme retirer tous les paquets de cigarettes chez un fumeur. Ça peut provoquer un sentiment d'angoisse, des crises de colère, qui sont d'ailleurs typiques des addictions en fait.
Et c'est la même chose pour les adultes.
Si quelqu'un veut se reposer après une dure journée de travail, au lieu de scroller pendant une heure, rien que regarder un film ou une série, ça reste reposant devant un écran, mais ça demande quand même un certain effort intellectuel et attentionnel juste de suivre le film du début à la fin ou la série du début à la fin, en fait. Donc remplacer les vidéos courtes par une vidéo plus longue qui demande un effort intellectuel, c'est déjà un moyen de compenser. Mais vraiment, le mot d'ordre, c'est de garder une activité stimulante et qui demande quand même un effort et un effort qui, par la suite, produit une récompense saine.
Si vous rencontrez des problèmes d'attention, qu'ils soient liés à un trouble de l'attention ou à une utilisation excessive des réseaux sociaux, il existe des solutions. Des professionnels peuvent vous accompagner pour mieux comprendre cette difficulté et mettre en place des stratégies adaptées. Dans un monde où l'attention est devenue une ressource précieuse, apprendre à la protéger est peut-être l'un des défis de notre époque.
Régis, à la suite de l'écoute de votre podcast, pouvez-vous nous expliquer les difficultés que vous avez rencontrées, s'il y en a eu, dans la réalisation de votre podcast ?
Alors franchement, pour être honnête, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un d'arrogant, mais j'ai pas vraiment eu de difficulté à réaliser le podcast pour une raison très simple, c'est que j'avais un plan très précis pour mon interview, et deuxièmement, le contact, donc le neuropsychologue, je le connaissais déjà, et franchement, pour finir, il avait clairement l'habitude de vulgariser le sujet, puisqu'il explique constamment à des parents et à des enfants.
Ah donc ça n'a pas été trop difficile de vulgariser ce sujet, qui est un sujet que vous ne connaissiez pas au préalable?
En fait, justement, c'est un peu ça c'est un peu le seul problème que j'ai eu, c'est que je ne vais pas plus loin parce que je ne connais pas assez le sujet, donc je ne me sentais pas prêt à aller plus loin en fait.
Merci Régis Théodore d'avoir été avec nous. Et c'est ainsi que s'achève ce podcast qui vient clore la deuxième partie de l'émission Écho Sonore. Un grand merci aux journalistes de Master 2 pour la qualité du travail accompli, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Nous vous souhaitons une excellente après-midi à l'écoute de 48 FM.